accent d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe, aux marges du continent, que ce soit par l'Espagne, par les îles grecques, par la mer Méditerranée ou l'Italie, les réfugiés fuyant la guerre ou la misère tentent de gagner l'Europe à tout prix. Depuis le Liban, il en est ainsi des Syriens qui tentent de rejoindre l'île de Chypre, mais les autorités chypriotes veulent endiguer ces arrivées. Elles ont appelé le gouvernement libanais à contrôler davantage ses frontières maritimes. Et entre-temps, la pression grandit au Liban sur les réfugiés syriens avec plus d'hostilité, plus de contrôle, de menaces de renvoi et de diminution des aides. Reportage depuis Beyrouth de Laure Stéphane.
Nous avons essayé de rentrer en Syrie, mais mon mari est recherché parce qu'il est réserviste dans l'armée. Nous devons rester ici et supporter la situation en silence.
Amina Hassan, 30 ans, a 4 enfants. Dans son logement dans l'est du Liban, elle raconte avoir fui la guerre en Syrie en 2014. La situation économique de la famille s'est dégradée, moins d'aide, des dettes.
Mon mari ne travaille pas, moi je fais de l'artisanat, notre situation est très difficile. Et aujourd'hui, en raison des contrôles des services de sécurité, je sais que mon mari court le risque d'être arrêté et renvoyé en Syrie. Moi, je ne pourrais pas vivre sans mon mari, jamais. J'ai peur du futur.
À Bar Elias, dans la Beka, où vit Amina, des réfugiés témoignent d'une hausse des contrôles des forces de sécurité. Selon des sources humanitaires, plusieurs centaines d'expulsions ont eu lieu vers la Syrie. Wadir El Asmar, présidente du Centre libanais des droits humains.
Depuis plusieurs années, il y a eu des pressions sécuritaires exercées par un des services ou par un autre pour des raisons politiques internes libanaises. C'est la première fois depuis la visite de Van der Leyen, c'est pour ça que nous pensons qu'elle a ouvert une sorte de boîte à Pandore. Il y a une pression sécuritaire concertée de tous les services de sécurité.
Cette visite a alimenté les fantasmes. Beaucoup ont dénoncé un diktat européen pour que le Liban garde les réfugiés sur son sol. Or, l'hostilité à leur encontre a augmenté dans un pays en crise. Roy Hachiti, militant du courant patriotique libre, une formation chrétienne.
Nous avons une crise économique au Liban et la présence des réfugiés syriens l'aggrave. Nous savons qu'ils ont fui la Syrie par peur de la guerre ou du régime. Mais il y a aujourd'hui des régions sûres où ils peuvent rentrer. Que l'ONU leur verse en Syrie l'aide qu'elle leur donne ici. Il y a des Syriens qui sont ici pour des raisons économiques et d'autres par peur de la guerre. Ces derniers qui ont peur de rentrer, ok, mais qu'ils se mettent en règle. Et les autres, je pense qu'ils sont la majorité, qu'ils rentrent.
Ce discours est partagé par tout le spectre politique où la présence syrienne est vue comme un fardeau. La délégation européenne à Beyrouth l'assure, il n'y a pas de pacte migratoire. Les aides annoncées sont la continuité de précédentes contributions. Mais pour Wadir El Asmar, il y a bien une externalisation de la question des réfugiés depuis plusieurs années.
L'Union européenne, malheureusement, est engagée dans une démarche que nous condamnons d'externalisation généralisée de toutes les questions migratoires. Avec le Liban, c'est plutôt concernant les réfugiés syriens. Et quand von der Leyen parle de contrôle de frontières, elle ne parle sûrement pas, et ni les Libanais parlent de contrôle de frontières avec la Syrie. Mais ils parlent de contrôle des frontières pour empêcher les Syriens de partir vers Chypre.
Une partie de l'aide annoncée est en effet dévolue aux forces de sécurité pour qu'elles renforcent leur contrôle en mer. Roy Hachiti, le militant politique rencontré lors d'une manifestation à Beyrouth de son parti contre les aides européennes.
Chypre, île voisine du Liban, s'est mise à crier « on ne peut pas faire face » car ils ont reçu 8000 réfugiés syriens. Une partie de l'argent européen promis est destinée aux forces de sécurité pour qu'ils bloquent les départs des Syriens en mer vers l'Europe. C'est un danger pour nous. Des centaines de Syriens continuent de venir au Liban et il est interdit qu'ils partent.
Chypre ainsi que 6 autres pays européens, dont l'Autriche et l'Italie, ont appelé conjointement à une réévaluation de la situation en Syrie. En clair, déterminer des zones sûres qui permettraient le renvoi de réfugiés. Wadir El Asmar.
On veut tout ce qui est un retour à la normale en Syrie. On veut tout ce qui est une fin de l'impunité en Syrie. Mais donc, dire qu'il y a des zones sûres en Syrie aujourd'hui, sous le contrôle du régime surtout, c'est ouvrir la porte à des déportations, même d'Europe. C'est ouvrir la porte à un retour de bâton. Envoyer des gens en Syrie et qu'ils se fassent arrêter. Si l'information arrive dans la communauté syrienne que ces gens-là sont en train de se faire arrêter, plus personne ne va vouloir rentrer.
Les tensions récentes au Liban ont poussé des réfugiés à repartir en Syrie, mais cela reste une goutte d'eau et les désirs de rejoindre l'Europe demeurent entiers. Shafiq Mohamed, un couturier originaire d'Alep qui vit dans la Beka.
Actuellement, il n'est pas possible d'aller à Chypre. La mer est contrôlée par l'armée libanaise et par l'armée chypriote. Mon projet était de me rendre en Libye, puis en Algérie et de là gagner l'Espagne puis l'Allemagne. Ce qui m'a retenu jusqu'ici, c'est que j'ai peur de la mer. Je connais beaucoup de gens qui sont morts en mer. Mais si la pression continue contre les Syriens au Liban, d'ici le mois d'août ou de septembre, je partirai, quand bien même je devrais mourir noyé.
Instrumentalisés par le régime de Damas, mais aussi par les pays donateurs et les pays hôtes, les réfugiés syriens voient leur avenir toujours plus incertain.
Toujours sur la question de l'arrivée de réfugiés en Europe, les refoulements pratiqués par la Grèce sont actuellement jugés pour la première fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont les opérations de renvoi de migrants vers la Turquie, d'où ils sont partis, sans que puisse être prise en compte leur éventuelle demande d'asile, comme le prévoit pourtant la Convention de Genève, qui sont en cause. Une pratique courante, mais officiellement niée par Athènes en raison de leur illégalité. Joël Bronner, bonjour, vous êtes notre correspondant à Athènes et vous avez suivi pour nous ces auditions. Alors rappelez-nous d'abord, quelles sont ces deux affaires de refoulement jugées en même temps par la Cour de Strasbourg ?
Parmi un certain nombre de plaintes déposées, ces deux affaires n'ont clairement pas été choisies au hasard par la justice européenne. En plus de présenter des preuves solides, les deux affaires offrent une synthèse des pratiques de refoulement pratiquées par Athènes. La première affaire de refoulement concerne la frontière terrestre avec la Turquie, au niveau du fleuve Evros. La seconde, les îles de la mer Égée, en l'occurrence Samos. L'une se déroule alors que Syriza, la gauche, est au pouvoir. L'autre, plus récente, alors que c'est Nouvelle Démocratie, la droite, qui gouverne. Une manière donc de mettre l'État grec en face de ses responsabilités.
Vous évoquiez, Joël, à l'instant, des preuves solides. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
Oui, prenons le cas de cette ressortissante turque qui n'a pas pu se rendre à l'audience. Après une tentative de coup d'État en 2016 en Turquie, cette jeune professeure de mathématiques a voulu fuir un pays où les partisans, comme elle, du leader religieux Fethullah Gülen, accusé d'être lié au putsch avorté, sont massivement réprimés. Refoulée vers la Turquie sans pouvoir demander l'asile, elle a passé au final plus de 2 ans en prison dans les geôles turques. Dans son cas, sa présence sur le territoire grec paraît difficilement contestable. Écoutons l'avocate Clotilde Prunzu.
La présence de la plaignante sur la place centrale du village grec de Neavissa est corroborée à la fois par un selfie qu'elle a pris devant un bâtiment administratif public et une autre photo de la plaignante sur cette même place a été prise cette fois par un témoin oculaire qui est avocat. Dans son témoignage, l'avocat grec confirme de son côté la présence de la plaignante sur la place de ce village et l'authenticité de la photo qu'il a lui-même prise.
À ces éléments s'ajoutent aussi d'autres preuves liées à la téléphonie, comme des partages de localisation avec la famille de la plaignante, alors que celle-ci se trouve sur le territoire grec et plus précisément à l'intérieur même d'un commissariat de police.
Pour les avocats des refoulés, on imagine que cette audience a donc été l'occasion de faire de ces deux affaires le procès des refoulements par la Grèce.
Exactement. Les avocats, qui peuvent compter sur la position plus qu'acrobatique d'Athènes sur cette question des refoulements, qui sont niés contre toute évidence, ne se sont pas privés en effet de décrire ces refoulements non pas comme des cas isolés, mais comme faisant partie d'un système. L'avocate Maria Papamina.
Les opérations de refoulement sont des opérations illégales et informelles qui ont lieu secrètement. Nous ne contestons pas que la police ainsi que les gardes-côtes grecs ont par ailleurs secouru des milliers de réfugiés aux frontières terrestres et maritimes. Mais dans le même temps, il est tout à fait vrai que les opérations de refoulement ont lieu à une telle échelle qu'elles sont devenues de fait une politique générale en Grèce. Une politique qui doit cesser, comme doit cesser l'impunité de ceux qui la mettent en œuvre et des responsables à l'origine de ces pratiques illégales. Nous avons en tout cas la conviction que la décision de votre cour dans les 2 affaires de refoulement jugées ici pourrait avoir un impact très fort dans cette direction.
Il n'existe pas aujourd'hui de date connue concernant ce verdict de la Cour européenne des droits de l'homme, mais les juges mettent en général plusieurs mois, voire près d'un an, avant de trancher ce type d'affaires.
Merci Joël Bronner, notre correspondant en Grèce.
Accent d'Europe, Léonard Vincent.
Intéressons-nous à l'Italie à présent. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en a fait l'un des symboles de la nouvelle politique migratoire de Rome. Ces camps de rétention de migrants construits de l'autre côté de la mer Adriatique en Albanie. Cette externalisation des demandes d'asile dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne est une première sur le vieux continent. Et elle a reçu le soutien du Premier ministre albanais qui met en avant la relation historique de son pays avec l'Albanie. Pourtant, sur place, ce projet est contesté, tant par les habitants qui disent s'inquiéter pour leur sécurité que par les acteurs du secteur touristique qui craignent pour leur activité. C'est un reportage dans le nord de l'Albanie, sur la côte, de notre envoyé spécial, Louis Seyer.
Des petits potagers, des poules sur les chemins en terre et dans le fond, le bruit des tractopelles qui résonnent en continu. Bienvenue dans le village de Jadeur, situé à 80 km au nord de Tirana. Le long de la rivière, des grilles et des barrières surveillées ont été installées et sur quelques préfabriqués, on aperçoit des panneaux en italien. C'est ici, au milieu des champs du nord de l'Albanie, que Giorgia Meloni fait construire un centre de rétention pour migrants. Le projet inquiète les habitants de ce village modeste. Armando, 31 ans.
Personne ne nous a demandé notre avis pour ces camps. L'État décide tout seul et il se fiche de l'avis du peuple. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à gagner avec ces camps? On n'est même pas 3 millions d'Albanais. Et le Premier ministre, Edi Rama, n'est pas capable de nous aider. Mais il veut aider des Africains et des gens du monde entier. Mais l'Italie n'a pas de terrain chez elle, elle en a plein.
Signé en novembre 2023, l'accord bilatéral d'une durée de 5 ans prévoit le transfert vers l'Albanie de migrants secourus en Méditerranée par les navires italiens. Une résidence albanaise temporaire, le temps de traiter leurs demandes d'asile avant un possible renvoi vers leur pays d'origine. Ces centres, gérés par les autorités italiennes, devaient ouvrir avant les élections européennes, mais leur ouverture a été reportée au 1er août. À 20 km de Jadeur, dans le port de Shenjin, le centre de débarquement et d'identification est prêt. Des préfabriqués gris, protégés par des grilles métalliques, ont été installés à côté des chalutiers. Sander Marashi est le directeur du port.
Comme vous pouvez le voir, ici, le centre est prêt à accueillir les migrants, mais on attend que le centre de Jadeur soit terminé. Les migrants ne vont pas rester longtemps dans le port. 200, 300, 500 personnes vont arriver par bateau, et ici, leurs données personnelles seront enregistrées.
À Shenjin, l'arrivée prochaine de milliers de réfugiés inquiète la plupart des habitants. Avec son front de mer bordé de pins maritimes et ses plages de sable, la cité balnéaire est le centre économique de la région. Les restaurateurs et les hôteliers sont largement opposés au projet, mais personne ne critique ouvertement les choix du tout-puissant Premier ministre albanais. Surtout qu'Edi Rama a mis en avant une dette du pays envers l'Italie. Une référence à l'arrivée de l'autre côté de l'Adriatique de centaines de milliers d'Albanais lors des chaotiques années 90. Besnik Soulay se rappelle ses débuts comme immigré sur le sol italien. Aujourd'hui âgé de 63 ans, il tient un hôtel sur le front de mer de Shenjin, à quelques pas du port.
Quand je vois les réfugiés aujourd'hui, ça me rappelle ma vie quand je suis arrivé en Italie en 93. Des années difficiles, je ne savais pas la langue, rien, et je n'avais pas à manger, rien. Et des Italiens m'ont aidé. Cet accord avec l'Italie, ça me fait du mal pour ces personnes. Mais ça ne va rien changer pour moi, ni pour mon business. Comme citoyen de Shenjin, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, on accueille déjà des réfugiés afghans depuis des années. Le peuple albanais est le seul qui ne fait pas de division religieuse. Et on n'est pas raciste. On accueille tous les types d'immigrés.
Giorgia Meloni présente déjà comme un modèle cette externalisation de l'asile dans un pays non membre de l'Union européenne. Pourtant, le projet albanais de la chef d'extrême droite est vivement contesté. De nombreuses questions techniques et juridiques sur sa faisabilité sont en suspens et le coût de sa mise en œuvre pourrait dépasser les 650 millions d'euros pour 5 ans avancés par le ministère de l'économie italien. Côté albanais, l'activiste Arlinda Leshi, 27 ans, a organisé des manifestations pour dénoncer la perte de souveraineté de son pays.
Ce n'est pas la solution à l'immigration illégale. Ces camps sont une solution totalement électorale, à court terme, ils ne vont pas fonctionner avec le nombre de personnes et la capacité qu'ils ont annoncée. Il serait évidemment bien plus facile pour l'Italie de s'occuper de ces personnes sur son territoire. Elle a la place et cela lui coûterait bien moins cher. Les envoyer chez nous, c'est de la pure propagande électorale. De notre côté, ça n'a aucun sens. Pourquoi devrions-nous accepter et être toujours un vassal des pays étrangers en faisant le jeu de responsables politiques qui veulent rester au pouvoir ? C'est un accord qui n'a pas de sens et nous n'avons aucun intérêt à en tirer.
Le gouvernement italien, pour nous...
À la tête du parti socialiste albanais, Edi Rama est critiqué par ses camarades de la gauche européenne pour son soutien apporté à l'agenda de l'extrême droite italienne. Mais pour l'opposition albanaise, le Premier ministre cherche surtout à faire oublier les enquêtes et les accusations de collusion avec le crime organisé qui se multiplient contre son exécutif. Jean Joni est le responsable du Parti démocratique de la région de Shëngjin.
En ce moment, le gouvernement albanais se trouve dans une position extrêmement difficile et il cherche à obtenir le soutien politique des partenaires européens. Parce que les scandales éclaboussent les uns après les autres, ce gouvernement, la corruption galopante concerne des ministres, des maires, des vice-ministres, l'ensemble des institutions et des gens très proches du Premier ministre sont impliqués dans le trafic de drogue. Et c'est évidemment l'intérêt de ce gouvernement d'offrir tout ce qu'il peut aux partenaires étrangers pour assurer son maintien au pouvoir.
De nombreux experts ont affirmé que cette externalisation de l'asile en Albanie n'était pas conforme au droit européen. Mais cela n'empêche pas plusieurs États membres de brandir déjà cet accord afin de prôner un nouveau durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne. Le Royaume-Uni pour clore cette émission. L'un des sujets qui a dominé la politique britannique ces derniers mois a été le texte de loi sur la déportation des demandeurs d'asile arrivant illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda pour que leur dossier, là aussi, y soit traité loin du territoire britannique. Mais en convoquant des élections anticipées le 4 juillet, le Premier ministre sortant Rishi Sunak a tout changé. À Londres, la correspondance de Marie Billon.
Il n'y aura pas de vol conduisant des demandeurs d'asile au Rwanda avant le scrutin. Rishi Sunak l'a confirmé, le gouvernement avait pourtant annoncé que les premiers avions devaient décoller fin juin, début juillet. Le timing est un choix politique de la part du Premier ministre sortant, faire de l'immigration illégale un enjeu dans la campagne. Mais c'est aussi une décision qui s'impose afin de respecter les règles d'impartialité des fonctionnaires qui auraient dû mettre ce programme à exécution pendant la période préélectorale. Cela veut peut-être surtout dire qu'il n'y aura jamais d'avion qui expédiera un seul demandeur d'asile arrivé illégalement au Royaume-Uni, au Rwanda. Selon les sondages, les conservateurs sont en phase de perdre ce scrutin avec une marge qui tourne autour de 20 points en faveur des travaillistes. Or, la gauche a dit qu'elle annulerait tous les vols s'il y en avait de prévu. Elle ne chercherait pas à poursuivre ce programme ultra controversé au niveau politique, mais aussi légal, judiciaire et international. La droite se sert de ces déclarations pour prétendre que l'opposition laissera le pays être pris d'assaut par des personnes traversant illégalement la Manche. Les conservateurs affirment aussi que les travaillistes veulent offrir une amnistie à tous les entrants illégaux. La gauche réfute ces accusations, elle dit vouloir créer un nouveau poste de commandement dans la Manche et améliorer la coopération entre le Royaume-Uni, la France et les autres partenaires européens. De fait, la loi sur la collaboration avec le Rwanda est déjà plus au centre de la campagne électorale. Beaucoup doutaient qu'elle puisse jamais être rendue effective. Certains estiment donc que Rishi Sunak a déclenché les élections plutôt que prévu à dessein pour s'éviter l'humiliation de voir son programme phare à nouveau contrarié.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Restez avec nous, l'information continue sur RFI.